philosophie de la matière à Rimont par le père Marie-Dominique Philippe, 10 novembre 1989, premier cours.
Bon. D'autre part, vous avez dit, le ciel dans son ensemble n'est pas quelque part, si du moins rien ne l'entoure. Est-ce que Dieu n'est pas l'enveloppe de l'univers? Dans ce cas, est-ce qu'il ne serait pas ce lieu de l'univers? On va tout reprendre la question du lieu parce que je vois que c'est difficile. Et c'est vrai, c'est difficile. Là, il y a une question. J'ai été tout à l'heure à la sacristie avec le livre de la physique d'Aristote. Je l'ai déposé sur la table. J'ai pris mes ornements. J'ai dit la messe. J'ai été tout de suite faire mon action de grâce. Je reviens pour reprendre mon livre. Il a disparu. C'est une question de lieu. Qui a pris ce livre? Je suis remonté chez moi, je me suis dit, bah, pieusement, il a dû le mettre chez moi. Pas du tout. Volatilisé. C'est un petit problème de lieu, ça. Et c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas une. Ça pourrait être une allégorie que je vous raconte. Ça. Le lieu, non. Heureusement qu'il y en a d'autres. Pieusement, je prends l'autre. Mais s'il y en a qui savent où est ce livre, de façon générale, hein, faites attention, ne ramassez pas trop vite les choses quand il s'agit de livres. Je ne sais pas qu'est-ce qui remet les ornements en place. Bon, je vous pose la question. Hein. Non, c'est pas la peine de chercher maintenant. Chacun dans sa conscience doit faire un petit examen de conscience. Si on n'a pas été à la sacristie, c'est sûrement pas vous. Il était sur le meuble sur lequel les ornements sont. Bon, je crois pas qu'il a été volatilisé pendant la messe. J'espère que non. Le feu du ciel est tombé peut-être là. Ça prouve que Dieu ne veut pas qu'on traite du lieu. Il faudrait interpréter encore. Alors, pensons toujours comme Aristote. Reprenons le problème à la racine. Parmi les prédicaments, il y a le lieu. Et quand je vous parle du livre, je dis j'ai laissé le livre à tel lieu, à tel endroit. Mais ce livre à tel endroit, c'est le lieu, indépendamment de moi. Il est évident que si je l'avais simplement déposé en l'air, il serait tombé, parce qu'il a du poids. Mais c'est l'expérience qu'apprend toujours Aristote. Je l'ai mis sur une table, il s'arrête. Alors, est-ce que son lieu, c'est d'être sur la table, ou est-ce que son lieu, c'est de dégringoler en bas? Première petite question. Si je le mets sur la table, c'est artificiel. S'il dégringole en bas, c'est naturel. Parce que le lieu du livre n'est pas une étagère. C'est un arrangement. Pas la même chose, le lieu et l'arrangement. Parmi les prédicaments, il y a le lieu. Pour l'homme, puisque les prédicaments regardent l'homme. Je suis en tel lieu. Je suis actuellement ici, j'ai quitté ma cellule ou ma chambre, style monastique, style séculier. J'ai quitté ma cellule ou ma chambre pour venir ici. Le lieu est lié au mouvement local, toujours. Toujours. S'il n'y avait pas de mouvement local, il n'y aurait pas de lieu. Toujours lié au mouvement local. Ça, je crois que c'est pour ça qu'on l'appelle le mouvement local. Un mouvement qui nous fait changer de lieu. Aller d'un lieu à un autre. Alors, est-ce que le lieu est premier par rapport au mouvement local ou c'est le mouvement local qui engendre le lieu? Oui, je pense pose ces questions-là, enfin, très simples, parce que nous reprenons le problème à la racine, indépendamment d'Aristote. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le lieu. Je crois qu'on se pose la question, et spontanément, c'est venu dans le langage commun. Je vais d'un lieu à l'autre. Je vous dis ça, et en disant ça, vous ne pensez absolument pas à la philosophie. Vous avez parlé du lieu bien avant de réfléchir sur le lieu d'Aristote. Bien avant. Donc, lié au mouvement local, ça je crois qu'on peut le dire, c'est lié au mouvement local. Il y a un mouvement d'altération, puis un mouvement local. On passe d'un lieu à l'autre. C'est pour ça que tout de suite, le lieu se rattacher au mouvement aller vers le bas, aller vers le haut. Et Aristote fait aussi, quand il cherche la raison pour montrer que le lieu existe, Aristote dit ceci: c'est la troisième raison. La deuxième raison qu'il donne. En outre, les transports des corps naturels simples, comme le feu, la terre et les autres semblables, indiquent non seulement que le lieu est quelque chose, mais aussi qu'il y a une certaine puissance. En effet, chacun est transporté vers son propre lieu. Si rien ne fait obstacle, l'un en haut, l'autre en bas. Et ce sont là parties espèces de lieu. Je veux dire le haut, le bas, et les autres parties, les six dimensions, et les autres parmi les six dimensions. Or, ces dimensions, le haut, le bas, la droite, la gauche, ne sont pas telles seulement par rapport à nous. Pour nous, en effet, elles ne sont pas toujours constantes, mais dépendent de la position que prend la chose pour nous, selon notre orientation. Par suite, une chose peut, en restant sans modification, être à droite et à gauche, en haut et en bas, en avant et en arrière. Voilà les six dimensions. En avant et en arrière. Il y a le devant et le derrière. Il y a la droite et la gauche, et le haut et le bas. Six dimensions. Dans la nature, au contraire, chaque dimension est définie absolument. Le haut, et l'homme, tout ça devient relatif. Dans la nature, au contraire, chaque détermination est définie absolument. Le haut n'est pas n'importe quoi, mais le lieu où le feu et le léger sont transportés. De même, le bas n'est pas n'importe quoi, mais le lieu où les choses pesantes et terrestres sont transportées. De telles déterminations diffèrent non seulement par leur position, mais par leur puissance. Les choses mathématiques, c'est une ameille, par leur puissance, dynamisme. Les choses mathématiques le montrent également. Elles ne sont pas dans le lieu, et cependant, suivant leur position relativement à nous, elles sont droite et gauche. Mais leur position est seulement objet de pensée, et elles n'ont par nature aucune de ces déterminations. En outre, les partisans du vide, alors autre chose, c'est autre chose. Donc, que le lieu soit quelque chose indépendant des corps, et que toute chose sensible soit dans le lieu, on pourrait l'admettre d'après ce qui précède. Et il semblerait qu'Hésiode ait pensé juste quand il a mis au commencement le chaos. Voici d'ailleurs ses paroles. Le premier de tous les êtres fut le chaos, puis la terre au large sein. Donc vous voyez, pour Aristote, selon le sens commun, selon l'expérience, le sens commun c'est l'expérience, hein, l'expérience brutale, le lieu est antérieur au mouvement. Naturellement. Puisque les corps pesants tendent vers leur lieu. Donc il y a une attraction mystérieuse. Une attraction mystérieuse. De telle lieu par rapport à tel corps. Et deux extrêmes, c'est le haut et le bas. La gauche et la droite, c'est relatif à l'homme. Ce qui n'est pas relatif à l'homme, c'est le haut et le bas. Tout se ramène à ça. Mouvement local vers le haut, vers le bas. Bon, ça c'est très intéressant à noter. C'est pas ? Et c'est en fonction de ça que toutes les autres dimensions se prennent. Je crois que dans les autres dimensions, les quatre autres, c'est l'homme qui intervient. Je crois qu'on peut dire assez facilement ça. Et si vous avez des objections, vous les notez. Donc, le mouvement local, le lieu haut et bas. Tout le reste artificiel. Vous mettez une commode pour empêcher que ça dégringole. C'est évident que s'il n'y avait pas de commode, vous prenez un livre, vous le dégringole. Vous en prenez un autre, il dégringole. Et le précédent sert de commode pour le suivant. C'est l'histoire du sycomore. C'est très curieux, mais c'est simple, hein, le haut et le bas. Ça, ce n'est pas lié à l'homme. Alors, nous avons dit que les éléments restaient. Si je fais une analyse sérieuse des éléments, je vois que en philosophie de la matière, je dois garder les éléments. Je dois donc respecter quelque chose de tout à fait particulier. C'est, je ne dis pas la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, c'est la science. Mais au-delà de la loi de la pesanteur, il y a quelque chose que le philosophe doit respecter. C'est que le fait, certains corps ont une attraction vers le centre de la Terre. Ça, je ne peux pas le nier. C'est un fait que je constate. Et que d'autres corps ont une attraction vers le sommet. Ils filent en haut. Je crois que ça, c'est la constatation brutale, toute simple. Et que c'est indépendamment de moi. Je prends exprès ça. Et au fond, il n'y a que ça. Mouvement local, c'est le haut et le bas. Aristote met un troisième mouvement, mais nous l'éliminons. C'est le mouvement circulaire. Est-ce qu'on a le droit d'éliminer ou pas ? L'éliminons parce que lui, alors c'est là où ce serait peut-être à faire, et peut-être ici, à propos du lieu, regardez ça avec plus d'attention. Nous avons éliminé la quintessence. Pour Aristote, le mouvement circulaire repose sur la quintessence, cinquième essence, cinquième élément. Le mouvement circulaire est-il lié à ce cinquième élément, la quintessence? Ça, la grosse question. On ne peut pas nier qu'il y a un mouvement circulaire. À peu près, quoi. À peu près circulaire. Alors, comprendre cette cinquième essence, le bas, le haut. Donc, trois mouvements locaux. Pour Aristote, c'est net. Trois mouvements locaux naturels. Et pour ces trois mouvements locaux naturels, dans son réalisme de ceci est, il faut nécessairement un support à ce mouvement. Le mouvement implique ces mouvements naturels d'un corps. Donc il faut un corps. Un élément. L'élément, c'est le plus petit des corps. Hein. Je ne peux pas aller plus loin. C'est le plus petit des corps. C'est un pot, c'est pas un principe l'élément. Hein. C'est un fondement. Donc, on a trois éléments Je réfléchis sur cette constatation de voir que je ne peux pas parler de ce qui se passe dans la Lune parce que je n'y suis pas. Maintenant que l'homme y a été et qu'il raconte des histoires sur la Lune, qu'est-ce qui se passe sur la Lune? Est-ce que la loi de la pesanteur existe? La loi de la pesanteur existe, donc c'est pas la Terre. La pesanteur, est-ce que quelqu'un qui est sur la Lune, va-t-il être attiré sur la Lune? Va-t-il arriver sur la Terre? C'est intéressant de voir ça. C'est quelqu'un qui est sur le soleil, il n'y reviendra pas, donc pas la peine de lui demander. Mais quelqu'un qui est sur la Lune, il revient. Alors, je peux dire que la Lune a une attraction par rapport au soleil. C'est sûr. Et la Terre, attraction par rapport. Alors, c'est le soleil qui fait le centre. Attiré vers le soleil. Et les corps terrestres, c'est vers la Terre, le centre de la Terre. Mais je prends l'expérience brutale, indépendamment des calculs scientifiques. Je prends ceci, ça existe, je le vois, je le constate. Alors, qu'est-ce que représente le lieu? Puisque c'est à partir de là qu'on parle du lieu. C'est pas autrement, hein. Parce que mon mouvement local, il est tellement mélangé. Je sais pas, je peux m'amuser à aller sur une balançoire. Quand je suis sur une balançoire, c'est vers le haut de temps en temps, c'est vers le bas après. Et au bout d'un certain temps, je ne sais plus où je suis. Donc c'est artificiel. Et d'un point de vue artificiel, je peux inventer n'importe quelle espèce de mouvement. Donc je reviens à la nature. Antérieur à l'artificiel, tout le temps. Au-delà d'artificiel, il y a toujours la nature. Et j'essaie de creuser ça. Il faut creuser ça. Puisque c'est ça l'expérience première, fondamentale. Puisque le vivant se meut d'un mouvement local. Donc, le vivant, par définition, maîtrise le lieu. Qu'il se meut. C'est la première victoire. Je ne suis plus lié à la matière comme la terre et le feu. Je me meus. Les mouvements locaux existent chez tous les vivants. Et c'est vrai qu'il y a chez le vivant quelque chose de radical qui le rend victorieux de ce mouvement local au bas la cadence. C'est pour ça que ce n'est pas le vivant qui va me faire comprendre ce que c'est que le lieu, primitivement. Je reste au niveau philosophie de la nature. Et je dois rester au niveau de la philosophie de la nature. Je peux très bien dire, le lieu n'existe pas. Donc, je reprends tous les arguments d'Aristote, je dis non, je ne peux pas dire ça. Je constate. Il y a une loi d'attraction vers la Terre. Et alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, le corps physique, c'est sur cette Terre que je le regarde. Sur cette Terre et l'atmosphère qui est autour de la Terre. Je suis limité dans mon expérience, c'est sûr. Dès qu'il s'agit de la Lune, c'est en dehors de l'atmosphère. Et le lieu et le temps vont qualifier, je dis bien vont qualifier, une réalité que je constate. La Terre. Ces deux extrêmes. de mon monde physique. C'est bien deux extrêmes. C'est deux extrêmes parce que c'est les éléments. Et c'est les deux éléments extrêmes. Je ne parle pas du troisième. Maintenant. Parce que les autres, je ne constate pas, j'en ai pas l'expérience. Vous voyez ? Je dois uniquement calculer selon mes apparences. Et comme je dois regarder seulement selon mes apparences, je ne peux pas, au plan philosophique, porter le jugement d'existence le plus radical. Donc, je suis réduit à la terre et au feu. Et je dois dire que la terre et le feu ont donc deux qualités distinctes qui impriment à l'un et à l'autre de ces éléments un mouvement local. Et le terme de ce mouvement local, c'est le lieu. Lieu de repos de ce mouvement local. Le lieu est donc quelque chose d'extrinsèque à la terre et au feu. Ça. Mais je reste dans la constatation, hein, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que le lieu prédicamental. Je ne fais pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que le lieu prédicamental ? Avoir la notion la plus exacte du lieu prédicamental. Oui, alors est-ce que, à ce moment-là, la définition que donne Aristote, que nous avions vue, est-elle exacte ? Quand il donne la définition du lieu. Par suite, la limite immobile, immédiate de l'enveloppe, tel est le lieu. Mais c'est exactement ça. C'est dans la ligne du prédicament et du mouvement local. Par suite, la limite immobile, il y a repos. Du feu et de l'air. La limite immobile, immédiate de l'enveloppe. De l'enveloppe, il faut prendre tout simplement, il ne faut pas prendre de l'enveloppe, hein. Ce qu'on appelle une enveloppe, hein. c'est pas tout à fait ça. L'enveloppe qu'on appelle l'enveloppe est une œuvre artificielle. C'est l'homme qui a fait une enveloppe. Il n'a pas pensé au lieu en faisant l'enveloppe. L'enveloppe est le lieu de l'être. C'est sûr, parce qu'une fois que vous avez mis la lettre dans l'enveloppe, elle est au repos, et elle est cachée par l'enveloppe, elle est dans son lieu, mais c'est un lieu artificiel. Mais vous pouvez partir de là, puisque l'art nous aide à comprendre la nature. Vous pouvez comprendre ce que c'est. En réalité, c'est le corps qui enveloppe immédiatement, le péri-ekontos. Donc, celui qui est péri, qui est extérieur. C'est pour ça que j'aime presque mieux dire l'extérieur. Évidemment, il y a l'idée de péri-ekontos, ce que souligne Aristote, que je ne dis pas quand c'est le corps extérieur. Mais c'est le corps extérieur qui attire, donc qui finalise. La terre est finalisée par le centre de la terre. Et le feu est finalisé par ce qui est extérieur. C'est pour ça que péri-ekontos, c'est la limite de ça. Voilà le lieu. Ça ne dit pas grand-chose, hein. Est-ce que je peux aller plus loin ? Cette constatation très simple qui reste liée au jugement d'existence. À partir de là, on pourrait étudier les lois de gravitation. Mais c'est à partir de là. La loi impliquant une mesure. Là, je ne mesure rien, je constate. Je suis dans l'ordre qualitatif. De la qualité. Tu vois ? Moi, je vois cette espèce d'aspect qui va plus loin. Est-ce que je peux aller plus loin ? Je peux simplement dire que, de fait, c'est les éléments qui me font comprendre parfaitement ce que c'est que le lieu. Ça repose sur les éléments. Si les éléments, je dois les supprimer, je supprime le lieu. Mais si les éléments sont vraiment les éléments de notre monde physique, alors je dois respecter cette qualité particulière. Vous voyez, comme la quintessence avait comme qualité la lumière. Il y a une analogie qu'on peut prendre là. Et la lumière a un mouvement particulier qui est unique. On dit parfait, et par le fait même circulaire. Puisque le mouvement circulaire est parfait. Le mouvement deep, celui en référence avec lequel tous les autres vont se prendre, ce sera la lumière. Donc ça, je peux le maintenir. Et je peux maintenir ces deux mouvements sublunaires, sublunaires. Je ne dis pas qu'ils sont dans la lune, je dis qu'ils sont sublunaires. Les deux mouvements d'incorruptibilité de notre univers, le haut et le bas. Ils sont rattachés à ce qui finalise ces deux éléments. Et quand je dis finalise, c'est pour montrer que je maintiens une qualité propre à ces deux mouvements. Ces deux mouvements sont qualitatifs. Et c'est pour ça que je dis finalise, parce que quelle est la finalité dans le monde physique ? Là, je viens purifier cette question du lieu par rapport à la fin. Qu'est-ce qui finalise le monde physique ? Puis-je découvrir la finalité dans le monde physique ? Question grave et importante. Si je reviens, quand je pose cette question-là, je dois revenir à la nature. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la nature. On a dit la nature, principe immanent de ce qui est mu. Principe immanent, efficient de ce qui est mu. Voilà la nature. J'ai découvert par induction. Cette nature a une dualité, c'est qu'elle implique nature. Forme, nature, matière. Et la nature forme, j'ai dit qu'elle impliquait qu'elle était fin. Ah, ça, voilà. Tout est là. C'est la forme qui est fin. Il n'y a pas d'intelligibilité nouvelle. La forme est immanente et la fin est immanente à la nature. Au niveau purement physique, je dis bien au niveau purement physique, il n'y a pas d'expérience nouvelle de la fin en dehors de l'ordre, et l'ordre s'explique par la forme. Pourquoi posez-vous une fin dans la nature ? À cause d'un ordre qui est dans le mouvement. Il y a un ordre qui se répète. L'ordre qui est toujours le même. Ut in pluribus. L'expression d'Aristote. En grec. Sicuten polis. Je l'écris en latin parce que c'est saint Thomas qui le reprend. Ut in pluribus. Un ordre qu'on voit toujours le même. Dans la nature, il y a un ordre qui se répète, qui est toujours à peu près le même. À partir de là, je parlerai du hasard, ce qui est en dehors de cet ordre. Et la finalité se ramène à l'ordre. Un ordre immanent. La fin dans le monde physique, c'est un ordre immanent. Qui est commandé donc par la forme. intéressant de voir. Voyez, le point de vue, quelle différence est-il entre une forme et un ordre? Posez-vous la question. Un ordre dans le mouvement. Un ordre dans le mouvement, c'est un mouvement déterminé. C'est un mouvement qui a son orientation. Il est déterminé. Cette orientation vient-elle de l'extérieur ou vient-elle de l'intérieur? Quand le feu monte, est-ce que ça vient du feu ou d'attraction du ciel? Quand la terre dégringole, l'attraction, ça vient de la terre ou du centre de la terre? Je pose la question. C'est toute la question de la finalité. Dans l'ordre physique. Dans l'ordre physique au niveau philosophie de la nature. Pouvez-vous déterminer où est-ce que vous projetez? Chose qui ne vient pas directement du physique, mais qui vient de la métaphysique, qui vient de l'éthique, le sens que j'ai de la fin. Purifions jusqu'au bout notre notion de fin, appliquée à la nature. La fin est immanente. Vous allez me dire, c'est les deux pôles. C'est ça la réponse. C'est que, c'est-à-dire, entre les deux, je ne tranche pas. Voyez, il y a le centre du monde, puis il y a la terre qui dégringole. Donc la terre est en connaturalité avec le centre du monde, et c'est pour ça qu'elle est attirée vers le centre du monde, comme étant une partie vers le centre. Et donc l'attraction n'est pas uniquement le centre, il y a une complicité. Une connaturalité, donc c'est bien la forme de la terre. C'est bien la détermination de cet élément. C'est bien la détermination du feu. Et qui est attiré vers ce qui n'est que terre. C'est ça qui se repose. Et qui est attiré vers ce qui est feu, et qui n'est que feu. Mais comme c'est curieux, comment la simplicité joue un rôle d'attraction? La terre comme terre, le feu. La simplicité implique-t-elle cette force d'attraction? C'est ce qu'Aristote veut dire quand il dit dunamai, hein, la puissance. Je dis complicité, rapport entre les deux. Pouvons-nous séparer? Je crois pas, en physique. C'est la similitude qui est entre les deux. Et d'un côté plus parfait, donc périt, tout périt et contos. Ce qui enveloppe, en réalité, ce qui finalise, ce qui est le maxime étalé dans ce genre. La terre qui n'est que terre attire la terre, tous les éléments de la terre. Le feu qui n'est que feu attire tous les éléments du feu. Et alors, il est péri et contos. Il est ce qui entoure, ce qui enveloppe, ce qui mesure. C'est la mesure. Mais quand on dit que l'ordre implique une mesure, saint Augustin dit ça constamment et saint Thomas reprend, implique une mesure, implique une cause exemplaire. Ça c'est parce que je veux comprendre l'ordre. Mais quand il s'agit d'un ordre physique, naturel, purement immanent, ça implique une enveloppe. Ça implique un centre d'attraction. Ça implique un autre corps qui soit du même genre et qui attire. Parce qu'il est le plus parfait. Pas plus que ça. Donc, au point de vue intelligibilité, c'est bien la forme. La nature forme qui me fait comprendre la nature fin. Alors, voyez, quand je dis que le lieu finalise, je veux dire tout simplement que le lieu, c'est, à propos des éléments, c'est là où je trouve la terre. Maxime est allé. Le feu, Maxime est allé. Pas plus que ça. Alors ça me fait comprendre ce que c'est que le lieu. Le lieu, c'est la mise en ordre. Oui. C'est ce qui va ordonner les éléments entre eux et les corps entre eux. Le plus parfait attirant le moins parfait, enveloppant le moins parfait. Et en l'enveloppant, il le garde. Je crois que c'est ça le lieu. Et l'idée de lieu n'est pas plus que ça. Mais c'est très important. C'est de respecter, voyez, que dans la nature, il y a du plus et du moins, et que par le fait même, il y a un ordre. Le lieu manifeste l'ordre du monde physique. Alors, on peut, à partir de là, dire, le lieu finalise. Mais en réalité, comme c'est une fin immanente, ce n'est que l'ordre. L'ordre, c'est la fin immanente du physique. Le monde physique ne peut être finalisé qu'en étant ordonné. Donc en respectant le plus et le moins. Je suis dans le monde physique. Dès qu'il s'agit de la vie, ce sera autre chose. Comme le physique demeure dans le vivant, l'âme est victorieuse des éléments. Et l'âme organise le vivant selon son rythme à elle. Selon son ordre à elle, l'organisme. C'est pour ça qu'on parle de l'organisme. Vous ne parlez pas de l'organisme de la pierre. Vous pouvez parler de la pierre ordonnée, mais il n'y a pas d'organisme. C'est que là, il y a un organisme. Parce que cet ordre est immanent, il provient de l'âme. Et c'est l'âme qui est le lieu du corps vivant. Si l'âme n'est plus là, ça devient anarchique. Ça va dans tous les sens. La génération spontanée va dans tous les sens. Et c'est parce qu'on ne veut pas voir ça qu'on brûle, on incinère. On ne veut pas comprendre que c'est vrai que quand l'âme est là, ça part dans tous les sens. C'est pas très propre, c'est pas très bon. Alors soyons propres, brûlons. Le feu fait les choses proprement. Mais vous voyez, vous revenez au physique. C'est le feu qui brûle. Et qui fait une autre corruption, la combustion, qui n'est pas organique. C'est curieux ça. Donc l'âme va donner un lieu au corps vivant. Quel est le lieu de l'arbre? De l'arbre de vie. Quel est son lieu? Il possède à lui-même son propre lieu. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on le transplante. Sauf quand il est tout petit. Les petits sapins qu'on transplante. Ça, on peut le faire. Ils sont tout petits. Mais un grand arbre, il refuse. Il résiste. Il résiste. Il n'aime pas ça. Il est à lui-même son propre lieu. Il s'est créé son lieu. Mais ça, c'est vrai. Un chêne dans une forêt, crée son lieu, son milieu, et donc son lieu. Le grand vivant possède en lui-même son milieu, son lieu. Alors le lieu pour l'homme, son âme finalisée. Puisque l'âme n'est parfaitement acte que si elle est finalisée. Donc, elle est parfaitement localisée. C'est très important pour comprendre l'unité. L'unité de l'organisme vient de l'âme. Oui, au point de vue médical, c'est capital. Une âme qui est triste, 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 triste. Ah oui, mortellement triste. Elle ne peut plus organiser le corps comme elle le voudrait, puisque toutes ses forces sont accaparées par la tristesse. Un psychisme délabré, angoissé, aliéné, culpabilisé. Et que l'âme est entièrement mobilisée par l'angoisse. Elle ne peut plus informer le corps. Elle manque de force. Et le corps physique, à ce moment-là, reprendra ses différents aspects. Dans la complexité, puisque le corps physique est une complexité extraordinaire. Et alors ce serait intéressant de voir la complexité, le déraillement des complexités différentes des parties du corps. Ils ne sont pas les mêmes. L'âme formalise, détermine le corps d'une manière indivisible. Mais sa puissance, sa dynamis, s'étend différemment dans les différentes parties du corps. Chez un intellectuel, tout est mobilisé pour le cerveau. Chez un affectif, tout est mobilisé pour le cœur. Chez un manuel, tout est mobilisé dans ses mains. Chez un artiste, tout est mobilisé du côté de son ouïe ou du côté de son œil. C'est curieux, les mobilisations différentes. Et qui sont des mobilisations différentes. Et qui fait que le lieu du corps est différent. Quand on a une secousse très profonde au point de vue intellectuel. Tout d'un coup, on mord à la philosophie. Cette fameuse secousse, on mord à la philosophie. C'est quand même quelque chose, hein. Signal d'alarme, je mords à la philosophie. Gare, gare. Eh bien, tout l'organisme est traumatisé. C'est sûr. Vous avez une grande secousse affective. Tout l'organisme en sent les conséquences. Vous avez une période où vous avez dû donner énormément de vous-même au point de vue du travail manuel. Une usure, vous ne pouvez pas dormir autant. L'organisme en sent. L'unité du corps, le lieu du corps, c'est l'âme. Alors, dans le second cours, je vous demanderai vos questions.